Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le meilleur des mondes, l'émission de France Culture qui s'intéresse aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Et ce soir, nous vous proposons un épisode en collaboration avec Uzbek Erika, la revue qui explore le futur autour de cette grande question. La manipulation génétique pourra-t-elle nous sauver et nous permettre de dépasser les menaces liées aux défis écologiques et au réchauffement climatique? Alors pour mieux se projeter, un détour par l'histoire de la génétique s'impose. Nous remonterons les traces d'un père fondateur, l'abbé botaniste Gregor Mendel, pour analyser son héritage. Et puis du 19e au 21e siècle, nous tenterons de mieux cerner les opportunités et dangers d'un outil comme CRISPR, un ciseau moléculaire employé pour modifier le vivant des cultures aux espèces animales. Quelles sont les limites du forçage génétique, notamment chez certains moustiques modifiés, dans le but d'éviter de transmettre à l'humain le paludisme? Quel bilan en tirer et en quoi l'éradication ou la modification d'espèces peuvent-elles entraîner des boules bouleversement écosystémique majeur? Que penser également des projets vertigineux de désextinction avec la réintroduction du mammouth laineux en Sibérie annoncé pour 2028, des velléités initiées par des entrepreneurs américains dans une logique techno-solutionniste? Comment éviter une possible fuite en avant technologique? Beaucoup de questions et ce soir, trois invités pour y répondre. Philippe Hinman, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe des sciences, directeur de recherche CNRS à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques à l'Université Panthéon-Sorbonne. Vous pourrez revenir sur l'histoire de la manipulation génétique et l'implication d'acteurs privés dans les nouveaux outils de l'époque. À vos côtés, Tatiana Giraud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de recherche CNRS et membre de l'Académie des Sciences. Vous pourrez nous expliquer le fonctionnement de CRISPR, notamment dans le champ des cultures végétales, et nous alerter sur les risques liés à la technologie du forçage génétique. Enfin, notre partenaire Blaise Mao est avec nous et complète ce trio. Bonsoir Blaise.
Bonsoir François.
Vous êtes le rédacteur en chef de cette revue qu'est Uzbek Erika, dont le dernier numéro vient tout juste de sortir en kiosque. Au programme également une chronique de Juliette Devaux qui prolongera la discussion en explorant la possibilité d'une nouvelle génération d'entrepreneurs de la Silicon Valley qui serait, c'est une éventualité, plus sensible au monde du vivant. Le meilleur des mondes s'écoute à la radio ou en podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur l'application Radio France et se regarde sur la chaîne Twitch de France Culture. Allez, c'est parti.
Le rêve des généticiens depuis qu'ils font des manipulations génétiques, c'est de pouvoir modifier l'ADN à volonté.
Aujourd'hui, ni les consommateurs ni les paysans ne veulent d'OGM. Seuls les multinationales essayent d'imposer ces organismes parce que ça leur apporte beaucoup d'argent.
Dans CRISPR-Cas9, il y a deux parties. D'une part, Cas9 qui est une nucléase, une enzyme qui coupe, un ciseau ADN. Et puis il y a CRISPR qui est une séquence qui permet de couper exactement où on veut.
Un blé moins sensible à l'humidité, c'est entre autres ce que permettrait l'utilisation des NGT, nouvelles techniques génomiques.
Tous les ans, on doit essayer de créer des variétés nouvelles qui sont plus résistantes. Ça veut dire moins de pesticides, moins d'engrais. On essaie de les rendre plus efficaces finalement dans nos agro-systèmes.
On a affaire à un fléau mondial. 40% de la population est exposée au paludisme transmis par les moustiques. L'idée est donc de modifier génétiquement l'insecte pour le rendre inoffensif.
He Jiankui, chercheur en biologie chinois, fait une annonce fracassante. Il a réussi à mettre au monde deux jumelles génétiquement modifiées. Une avancée scientifique majeure à l'éthique très discutable.
J'ai pris la liberté d'éradiquer tout risque de préjudice potentiel tel que calvitie prématurée, myopie, alcoolisme et prédisposition aux dépendances. Gardez à l'esprit que cet enfant est toujours vous, simplement le meilleur de vous.
Bienvenue à Gattaca. Au studio du meilleur des mondes, on démarre avec vous Blaise, car c'est votre dossier, celui du numéro 43 qui nous a soufflé donc cette idée de sujet du soir. C'était important pour vous de retracer l'histoire de la manipulation génétique pour mieux explorer les enjeux actuels qui sont notamment liés au dérèglement climatique.
Oui, en fait, notre curiosité sur le sujet, elle a démarré en 2011, où on avait relayé dans les pages du journal, de la revue, une étude qui imaginait les formes que pourrait prendre l'homo ingénieur. l'ingénierie, donc c'est-à-dire l'édition hein, du génome humain. Est-ce qu'il fallait réduire les humains en termes de taille, réduire leur estomac? Est-ce qu'il fallait devenir plus longiligne, changer notre capacité de sudation pour transpirer plus, pour supporter mieux la chaleur? C'était assez vertigineux, assez fascinant. Puis c'était très hypothétique. L'année suivante, il y a eu le prix Nobel décroché par Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna, donc les deux chercheuses qui ont mis au point cette technique, qui ont découvert CRISPR-Cas9, donc le fameux ciseau génétique dont on va reparler un petit peu plus tard. Et puis, il y a eu un traitement médiatique un peu énorme à ce moment-là de la génétique. Et puis, ça s'est un peu disparu des radars, alors que à l'inverse, les scientifiques s'en sont très largement emparés. Rien qu'en 2022, il y a eu 4000 publications scientifiques sur l'année 2022 consacrées à cet outil, hein, CRISPR-Cas9. Ouais. Et on s'est dit, c'est quand même le moment de faire un peu le bilan d'étape, promesses et limites aussi de la génétique, et en particulier de l'édition génomique, pour être un petit peu plus précis, notamment à l'aune effectivement du réchauffement climatique. Puisque là, ce qui était très hypothétique il y a 13 ans dans cette étude dont je vous parlais, devient étudié très sérieusement sur un scénario possible d'adaptation du corps humain au réchauffement climatique, pourquoi pas en jouant sur son génome.
Et c'est là où c'est un argument qui est justement convoqué par le camp aussi des technosolutionnistes qui se disent que tiens, finalement la technologie pourrait nous servir à dépasser les menaces qui nous guettent. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Et puisque vous parlez de bilan, vous regardez dans le rétroviseur, dans notre histoire, et vous ouvrez d'ailleurs votre dossier avec le portrait d'un père de la génétique qui est Gregor Mendel. Philippe Hünemann, qui était-il ce Grégor et comment on peut rendre compte de son héritage?
Moi, je suis historien et philosophe des sciences, donc je suis pas un bon historien. Donc, je vais.
Mais je suis un bon philosophe.
Non plus, mais sinon
je serais
juste philosophe.
Mais je suis un bon invité, quoi, c'est ça.
Ouais, essayer de faire des blagues et tout. Non, en fait, c'était un moine morave. C'était quelqu'un qui, alors deux choses importantes. La première, c'est que c'était quelqu'un qui était très intéressé à des problématiques d'horticulture, on dirait, et donc qui ont aussi à voir avec des questions que se posaient les gens qui faisaient de l'horticulture et donc de l'agriculture hein, aussi, qui à savoir comment améliorer les récoltes ou comment faire en sorte que quand on a une bonne variété de légumes, la génération d'après, ça se maintienne et que ça s'étiole pas. Et donc, il a réfléchi à la question de la transmission, ce qu'on appelle aujourd'hui la transmission des caractères d'une génération à une autre, soit l'hérédité. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est premièrement, c'était... alors, il n'était pas complètement inconnu dans le petit milieu des gens qui, des naturalistes, des gens qui s'occupaient d'horticulture, etc. C'était quelqu'un d'assez connu. C'était pas un grand naturaliste très connu comme un siècle plus tôt Linné ou à la même époque Darwin, bien
oui,
sûr.
Oui, parce qu'on rappelle que lui est né en 1865. Hein.
Oui. Donc il est pas. On dit souvent ça a été redécouvert par Corinth et De Vries en 1900. Hein, ça s'est passé relativement inaperçu au début. La chose importante, c'est qu'il va supposer deux choses. Il va supposer d'une part, pour comprendre l'hérédité, il faut faire une différence entre ce qui est transmis et ce qui est visible. Alors ce qu'on appelle aujourd'hui les gènes et donc le génotype, c'est ça qui est transmis et ce qui est visible, ce qu'on appelle aujourd'hui le phénotype. Par exemple, un petit pois, il peut être vert, jaune, lisse, ridé, pour prendre son exemple, son expérience. Et ensuite, la deuxième chose importante qu'il va faire, c'est qu'il va dire pour comprendre l'hérédité, il ne faut pas regarder un individu ou un couple, enfin un couple d'animaux, hein, on parle on parle même de plantes, là. Il faut vraiment, dans ces histoires, laisser l'humain de côté au début, sinon on ne comprend rien. Donc il ne faut pas regarder deux ancêtres et leurs descendants en reproduction sexuelle, il faut regarder toute une population. Et c'est là qu'on va pouvoir rendre compte des faits de l'hérédité, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que les descendants ont tendance à ressembler aux ascendants. Le second, c'est que parfois, quand les descendants ressemblent pas à leurs parents, les petits-enfants ressemblent à leurs grands-parents. Mmh. Donc c'est ce qu'on dit parfois, hein, ça saute une génération. Mmh. Bon. Et la deuxième chose que Mendel comprend, c'est que pour rendre compte de ça, en étudiant ça au niveau des populations, il faut penser en termes de statistiques. C'est-à-dire que quand je regarde un couple, je peux pas savoir comment sera son descendant. Quand je regarde toute une population, dont je connais un peu les ascendants, je peux... savoir quelle sera la proportion de ceux qui auront tel trait de ce trait visible et de ceux qui auront tel autre trait visible. Et donc l'outil pour penser ça, ça va être les statistiques. Mmh. Et la troisième chose qu'il va penser aussi, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la différence entre les gènes récessifs et les gènes dominants. C'est-à-dire que ce qu'on apprend au lycée en génétique, hein, enfin Tatiana me corrige si je dis des bêtises, mais je pense que chez Mendel, en tout cas, il voit les choses comme ça. Chaque parent donne un déterminant héréditaire à son descendant, et pour exprimer un trait, Il y a un des types de déterminants héréditaires, aujourd'hui on appelle ça allèle, qui, pour avoir le trait que conditionne cet allèle, il faut deux gènes, et il y en a un autre, pour avoir le trait, il suffit d'un allèle, donc c'est ce qu'on appelle dominant et récessif. Mmh. Voilà.
Donc il arrive quand même à permettre de découvrir les lois universelles de l'hérédité, si on va à peu près au sens large. Tatiana Giraud, ce qu'on comprend aussi, puisque Blaise Mahaut parlait tout à l'heure de l'emballement médiatique d'il y a quelques années autour de CRISPR, c'est que finalement, cette histoire de la manipulation génétique, elle n'est pas nouvelle, c'est une vieille histoire.
Vous voulez dire les OGM?
Par exemple.
Oui, ça fait longtemps que l'être humain, effectivement, cherche à modifier les espèces. Hein. On a modifié des espèces déjà sans outils moléculaires, sans OGM, par la domestication. Mmh. Par exemple, le maïs qu'on mange n'a rien à voir avec l'ancêtre depuis lequel les hommes les ont domestiqués par sélection artificielle, qu'on a modifié les génomes des espèces de génération en génération. Donc, effectivement, on a déjà modifié des espèces depuis longtemps. Le premier organisme vivant domestiqué, c'était le chien, à partir du loup gris, et il y a 20 000 ans seulement. Et donc en 20 000 ans, en choisissant certains individus qui avaient un comportement plus docile, qui chassaient mieux, qui étaient plus grands, plus petits, on a modifié le génome du loup gris pour donner une variété extraordinaire de différentes races de chiens. Et pareil sur plein de plantes. Et effectivement, maintenant les OGM, c'est un peu presque la fin de ce processus, une autre façon de modifier plus rapidement le génome de ces plantes qu'on veut modifier ou de ces organismes.
Oui, on voit bien qu'on est finalement dans une accélération d'un processus que l'homme a toujours entrepris. Pour continuer justement cette avancée historique, juste sur le 19e siècle, peut-être l'intérêt pour la génétique, j'imagine, s'explique aussi par les besoins de la révolution industrielle et la volonté aussi de rendre les cultures plus performantes. Il y a cette idée aussi d'optimiser.
Voilà, mais c'est depuis toujours en fait. Depuis qu'on a commencé à sélectionner des êtres vivants, on a voulu augmenter le rendement, augmenter le taux de sucre dans les fraises, dans les maïs, dans les pommes, différentes variétés, différents caractères. On a toujours voulu augmenter le rendement, la résistance aux maladies. Alors, quand on dit qu'on accélère, c'est un peu une façon biaisée et dangereuse de dire les choses, parce qu'effectivement, on peut aller plus vite, mais...
Mais je ne dis pas que c'est forcément dans la bonne direction.
Oui, c'est ça.
L'accélération n'est pas forcément synonyme de bon choix d'orientation.
Voire, on peut aller dans le mur.
Oui.
Et ce qui est vraiment la différence, c'est que donc pendant longtemps, il y a eu une sélection dans différentes régions de variétés différentes. Par exemple, le maïs, il existe des dizaines, des centaines de variétés différentes qu'on ne connaît pas. Des noirs, des petits, des gros, et qui sont chacun adaptés à des conditions locales. Parce qu'il y avait dans différentes régions des gens qui sélectionnaient pour des variétés qui étaient le mieux, la plus performante dans leur région donnée. Et là, on a pris un peu l'idée du plus performant dans l'absolu. Et en fait, Darwin, l'évolution, c'est vraiment pas du tout ça. C'est une adaptation locale aux conditions locales. Et si on peut continuer à s'adapter, ce que nous dit la théorie de Darwin et qui est toujours valable, c'est que si on veut continuer à pouvoir s'adapter, il faut de la diversité génétique dans une population. C'est vraiment le carburant de l'évolution. Puisque la sélection, c'est un tri parmi ce qui existe. S'il n'y a pas de variation, on ne peut pas continuer à sélectionner. Et donc, le problème, en choisissant maintenant, effectivement, très récemment, des choses très performantes, et qu'on diffuse partout sur la planète.
On essaie d'homogénéiser finalement.
Voilà, ouais, exactement.
En faisant fi de la spécificité des territoires et de la biodiversité. C'est un peu la grande tendance qui est entreprise et par le marché et par aussi finalement les architectes de la Silicon Valley, ceux qui sont derrière souvent ces projets-là. On aura l'occasion également d'en reparler. On poursuit encore un petit peu l'histoire avec vous, Philippe Huneman. 1953, une découverte majeure, celle de l'ADN.
Oui, c'est alors celle de découverte de la structure de l'ADN comme substrat de l'hérédité en fait. C'est-à-dire, la chose qu'il faut bien se rappeler, c'est que Mendel, et puis les redécouvertes de Mendel, et en fait toute la génétique classique, ce qu'on appelle la génétique classique, et puis qui va ensuite s'associer avec la théorie darwinienne pour donner la théorie moderne de l'évolution, sur la base de la génétique des populations, c'est-à-dire comment les fréquences des gènes changent dans les populations. Le gène était une entité théorique, personne n'en avait jamais vu. C'est-à-dire, on inférait les gènes à partir de connaissances sur des populations et sur des familles, sur des lignées, et puis à partir de ce que Mendel et les autres avaient dit de l'hérédité, on pouvait inférer les différentes fréquences de la répartition des gènes de génération en génération, et parfois on savait qu'un gène, par exemple l'hémophilie, on savait qu'il y a forcément un gène associé, etc. 53, c'est au terme de pas mal d'années de recherche, sur la base en particulier des travaux de Rosalind Franklin, Crick et Watson montrent que c'est cette molécule qu'on appelle l'acide désoxyribonucléique, qui est une double hélice, qui est le support de l'hérédité. Pourquoi une double hélice? Parce que c'est le fait que c'est une double hélice qui explique l'hérédité. C'est-à-dire qu'elle se divise en deux, et sur la base de chaque brin, on peut refaire le même brin que l'autre. Ouais. Donc si vous voulez, c'est, on comprend le mécanisme à partir de là et ça ouvre une nouvelle ère de la génétique. Les gènes, c'est plus des entités théoriques, c'est des choses observables, c'est des molécules et ensuite on peut faire de la biologie avec de l'expérimentation.
On arrive à matérialiser finalement.
On arrive à matérialiser. Alors évidemment, il y a tout un tas de questions compliquées. C'est pas exactement les mêmes gènes que les gènes de Mendel, etc. Mais ça, on va laisser ça de côté. Et fondamentalement, on arrive à cette idée, d'une part, que l'une des sciences les plus importantes en biologie, c'est la biologie moléculaire. C'est extrêmement financé. Ça permet des avancées gigantesques, par exemple en médecine, en immunologie, enfin dans pas mal de secteurs. Et puis aussi une sorte de vision un peu populaire de nous sommes notre ADN.
Oui, c'est ça. Et justement, puisqu'on arrive à le matérialiser, c'est là où on peut finalement rentrer dans la matière, la couper, la découper. Et pour la couper, il y a un ciseau. Et ce ciseau, c'est CRISPR dont vous parlez, Blaise Mao. Vous pouvez nous rappeler justement l'origine de CRISPR, puis le tourbillon justement qu'il a engendré, qu'il a suscité.
Oui, tout à l'heure, j'ai été un peu vite sur l'histoire de CRISPR. C'est 2012, donc c'est la microbiologiste Emmanuelle Charpentier et sa collègue Jennifer Doudna qui découvrent CRISPR-Cas9, hein, Cas9, qui est donc un outil d'édition du génome qu'on surnomme le ciseau moléculaire. Concrètement, ça veut dire qu'on peut couper et réassembler le génome et donc l'éditer, littéralement. L'idée, c'est quoi ? C'est que ça coûte pas cher, c'est facile à utiliser et la technique ouvre en fait à la génétique un champ d'application qui est presque illimité. Par exemple, CRISPR aujourd'hui est déjà déployé pour lutter contre la drépanocytose, qui est une maladie génétique héréditaire qui affecte les globules rouges. C'est utilisé, il y a certains médicaments CRISPR qui permettent de lutter contre certaines leucémies. On sait déjà que c'est très prometteur pour... Enfin, ça ouvre la porte à des thérapies géniques qui pourraient...
Notamment pour essayer de soigner le cancer.
Le cancer, notamment, ouais. Évidemment. Et aussi, ça peut s'appliquer au vivant au sens large, pas uniquement à l'être humain. Ça peut s'appliquer à des plantes, ça peut s'appliquer à des animaux. Donc, ça peut avoir des impacts pour rendre certaines espèces plus résistantes.
Justement, ça par rapport au vivant au sens large, on va en parler avec Tatiana Giraud. Juste en un instant sur CRISPR, est-ce que vous considérez cet outil comme révolutionnaire, même si parfois le mot est utilisé abusivement, et si oui, en quoi ?
Clairement, pour la science, c'est un outil révolutionnaire. Donc, c'est des outils qui ont été quelque part inventés par des bactéries, donc par l'évolution, pour lutter contre leurs parasites. En fait, c'est une enzyme associée qui coupe l'ADN, qui reconnaît les fragments d'ADN de leurs parasites et qu'ils découpent en petits morceaux. Et donc, elles ont découvert ce système et nous, on peut l'utiliser pour couper l'ADN à l'endroit qu'on veut et pour donc soit détruire un gène, soit le remplacer par une autre séquence, celle qu'on veut. Et effectivement, beaucoup plus facilement que ce qu'on pouvait faire avant. Avant les OGM, on pouvait... Alors, c'était beaucoup plus compliqué pour introduire l'ADN, découper, et puis on ne pouvait pas finement juste changer quelques endroits exactement
ce qu'on voulait. C'est vraiment de ciblage, on est
exactement,
dans très presque fin, chirurgical, en fait.
Avant, on pouvait insérer un nouveau gène entier qu'on avait pris ailleurs. Là, on peut vraiment modifier, soit enlever un gène, soit vraiment modifier une paire de bases là, une autre paire de bases là. Donc, c'est beaucoup plus facile, plus simple, et ça ouvre effectivement des champs du possible extraordinaire et tous les risques qui vont avec.
Alors justement, puisque vous parlez de risques, est-ce qu'on peut considérer que les NTG que vous pourrez peut-être nous définir sont un potentiel risque ou représentent un potentiel risque ?
Donc ce qu'on appelle les NTG, c'est effectivement ces nouveaux OGM, entre guillemets, qui sont générés par CRISPR-Cas9 et pas avec les techniques avant. Donc c'est un nouveau nom pour dire que c'est une nouvelle technique. C'est aussi un peu pour contourner les lois anti-OGM pour dire que c'est pas des OGM.
Le mot est galvaudé, donc on en invente un autre. Un exemple peut-être justement de NTG pour qu'on arrive à le réaliser.
Des exemples qui sont faits en ce moment, donc c'est ce qui a été cité tout à l'heure, hein, la lutte contre les maladies génétiques. Donc il y a plein de brevets qui sont en train d'être déposés contre des ravageurs, par exemple, pour les stériliser. Donc l'idée, c'est que on va associer on va introduire dans le gène, on va associer un gène de stérilité, par exemple, dans un moustique, avec un autre gène avec ce CRISPR-Cas9, qui fait qu'il va couper l'ADN et le remplacer. Et donc, en fait, ça va complètement bouleverser les lois de Mendel. Dans ce que disaient les lois de Mendel et qui nous apparaissaient universelles, c'est que, on reçoit chacun la moitié de notre patrimoine génétique de notre mère et la moitié de notre père. Et il y a quelques cas où les gènes arrivent à tricher et à se répandre dans toute la descendance. Et donc, évidemment, c'est sélectionné au cours de l'évolution parce que ils augmentent en fréquence. Et donc, en reprenant ce système, grâce à Cas9, on peut dire, on associe CRISPR-Cas9 à un gène de stérilité, et le gène de stérilité Donc Cas9 va couper l'ADN de tous les descendants et mettre le gène de stérilité. Donc tous les descendants vont être stériles. Et donc si on relâche par exemple quelques moustiques qui transmettent la malaria, on se dit la population va très vite récupérer ce gène de stérilité, devenir stérile, et on va arriver à éteindre la population de moustiques qui transmettent le palu.
Voilà, ça c'est la volonté, sauf qu'on ne sait pas très bien quelles peuvent en être les conséquences.
Voilà, exactement. Donc, les risques, c'est que ce gène, il est très puissant, puisque justement, il se transmet dans toute la descendance. Et si, par malchance, il se transmet dans une espèce d'à côté, on sait que des fois, il y a des hybridations ou des transferts horizontaux, il peut rendre stérile d'autres espèces sauvages dont on ne voulait pas se débarrasser, qui sont essentielles dans les écosystèmes.
Alors, il me semble qu'il y a eu un cas similaire aussi, vous avez évoqué les moustiques, au Burkina Faso pour tenter de lutter contre la prolifération du paludisme.
Pour la première fois en Afrique, un insecte génétiquement modifié va être lâché en pleine nature. Conçu dans ce laboratoire, 10 000 moustiques transgéniques auront pour mission d'empêcher la propagation du paludisme. Un projet inédit, autorisé par l'Agence nationale de biosécurité.
Les moustiques que nous allons lâcher sont des mâles, stériles, génétiquement modifiés. Ça veut dire en fait que quand ces mâles s'accouplent avec des femelles, ces femelles n'ont pas de progéniture.
Le programme Target Malaria permettrait d'éradiquer le moustique Anopheles gambiae, qui transmet le paludisme en empêchant sa reproduction.
Est-ce que là, juste Tatiana Giraud, on peut parler d'une forme de forçage génétique en l'espèce ?
Oui, c'est le terme qu'on prend pour traduire le gene drive en anglais, qui est ce phénomène qu'un gène se transmet pas à la moitié de la descendance, mais à toute la descendance. En fait, il force sa transmission à toute la descendance. C'est pour ça qu'on dit forçage, il force les lois de Mendel, quoi.
Voilà, il force les lois de Mendel et on comprend justement les limites qui sont déjà, il faut arriver à cibler la bonne espèce, ce qui n'arrive pas tout le temps. Et ensuite, on ne sait pas effectivement les conséquences que cette manipulation à grande échelle va pouvoir engendrer.
Et le problème, c'est que quand on relargue quelque chose dans l'environnement comme ça, surtout quelque chose qui se répand de façon aussi automatique et rapide, et après on ne peut pas la rattraper. Si on se dit « oups, j'ai fait une bêtise », oups, il y a une espèce qui est en train de s'étendre, je ne voulais pas.
Oui, on n'est pas dans le bico d'un laboratoire, on est vraiment à l'échelle. Et on a un bilan justement de cette tentative, de cette expérience qui a été initiée déjà il y a quelques années.
Pas que je sache. Je pense qu'il incorporait pas encore vraiment le gène de stérilité.
Et alors, si on n'a pas forcément encore de bilan, on sait qui il y a derrière ces projets-là, Philippe Hulman. On retrouve d'ailleurs Bill Gates qui a pu financer ces tentatives-là. Donc là, on voit qu'on est en adéquation avec la philosophie, la mentalité de la Silicon Valley et du technosolutionnisme. On essaye de considérer la nature, l'homme et la nature comme une sorte d'ordinateur. Donc il y a des problèmes, il y a des bugs et les bugs, on les corrige aussi facilement que rentrer finalement dans la programmation.
Oui, il y a vraiment cette idée-là qui... Alors, on peut souligner deux choses. La première, c'est que la pensée, la génétique mendélienne ou la théorie darwinienne, c'est des théories. Tout se passe au niveau des populations. Donc, c'est très différent. Là, une machine, une voiture, où on répare des choses, un ordinateur, c'est un individu. Donc, on pense vraiment sur un autre niveau. Ça, c'est une première chose. La seconde, si on regarde effectivement, c'est intéressant. Moi, je suis pas sociologue non plus, mais si on regarde un peu le qui et quel, alors Bill Gates sans doute, mais bon après il est partout Bill Gates, mais Colossal, cette société qui veut déséteindre le mammouth en faisant des manipulations
Colossal
génétiques. George Church, c'est quelqu'un d'intéressant, c'est l'un des premiers à avoir fait, si je me souviens bien, mis un génome synthétique dans une bactérie. À une époque, il a fait une application de dating pour contrôler si vous sortez avec des gens qui sont génétiquement compatibles avec vous. Et il était en compétition avec Jenny Doudna et Charpentier pour les brevets sur CRISPR-Cas9.
Donc il est à l'origine de toute façon de 40 à peu près.
Oui, c'est ça. Non,
mais
celle-là va effectivement rapporter beaucoup. Mais c'est un type de... Alors les sociologues appellent ça parfois le scientifique entrepreneur, comme Craig Venter en son temps, qui était l'autre moitié du décotage du génome humain. Et donc, mais ça indique un certain type de nouage entre la recherche fondamentale qui aujourd'hui... C'est ce qu'on appelle parfois la big science. C'est beaucoup de gens, ça coûte cher. Et puis, un certain type de capitalisme financier.
Oui, c'est donc des nouvelles découvertes qui peuvent pousser aussi les entreprises à une sorte de course au brevet aussi, dans une sorte de privatisation de la recherche, j'imagine, Philippe.
Oui, ça, d'une part, évidemment, alors là, CRISPR-Cas9, j'ai pas les chiffres, mais bien évidemment, via la médecine et les biotechnologies, ça va rapporter énormément. D'où d'ailleurs une guerre acharnée qui a duré des années pour savoir qui avait droit au brevet et qui dure encore. Et par ailleurs, c'est aussi, à partir du moment où il y a beaucoup d'argent en jeu, enfin, c'est aussi une guerre de promesses. C'est-à-dire que, en fait, quand on fait de la levée de fonds, on n'a rien fait. On dit qu'on va faire, mais on demande l'argent pour le faire. Ça veut dire qu'il y a une logique, on va maximiser tout ce qu'on peut faire. Quand on dit, ce qui est effectivement c'est complètement ridicule, enfin on va lutter contre le réchauffement climatique en balançant des mammouths en Sibérie. Alors, c'est drôle, mais il y a des gens qui vont y croire, et tellement y croire qu'ils vont mettre plein d'argent. Et donc il y a une sorte de monde parallèle où il y a des gens qui vont parler de choses qu'ils vont faire qui sont complètement impossibles, qui sont basées sur une science complètement fausse. Mais leur but, c'est pas de convaincre des pairs, comme on dit dans le monde scientifique, c'est de convaincre des investisseurs. Et là, c'est pas très difficile. Il suffit de se référer au dernier scandale, la Theranos, tout ça.
Et même si c'est pas si difficile, néanmoins, on voit que beaucoup n'y arrivent pas. C'est-à-dire que la personnalité de George Church, elle est intéressante parce que ce n'est pas qu'un fou.
Bien sûr. Non,
c'est quelqu'un
au contraire.
C'est
quelqu'un de très intéressant, comme Venter, voilà.
Et George Church a été rencontré justement et interviewé par l'équipe d'Ouzbek Erika, juste pour bien le resituer. Colossal Biosciences, qui envisage, donc, a été créé en 2021, notamment par George Church, mais c'est un trio, et envisage donc de réintroduire le mammouth laineux, une sorte d'être hybride avec l'éléphant d'Asie, pour pouvoir préserver le permafrost. Hein, je crois que c'est bien ça l'objectif, à échelle. 2028. Vous l'avez rencontré, George Church, Blaise?
Absolument. Enfin, pas personnellement, mais c'est une de nos journalistes qui l'a rencontré au Texas, dans les locaux donc de Colossal Bioscience à Dallas. On a discuté avec Ben Lam, l'entrepreneur, et George Church, le scientifique entrepreneur, enfin le biologiste. C'est une entreprise qui a levé, on parlait des levées de fonds, qui a levé fin 2023 225 millions de dollars, sûrement encore un peu plus depuis, et qui est leader du marché de la désextinction, donc cette volonté de réintroduire des espèces disparues. Alors comment ça marche? L'idée, c'est de reconstituer artificiellement trois espèces emblématiques, le mammouth, le dodo et le thylacine, qui est une espèce de loup marsupial, un peu moins connu et un peu moins emblématique que les deux autres, grâce aux fameux outils dont on parlait, donc CRISPR-Cas9, en utilisant en fait comme espèce hôte l'espèce la plus proche génétiquement qu'on connaisse. Dans le cas du dodo, c'est le pigeon de Nicobar. Dans le cas du mammouth, c'est l'éléphant d'Asie. Et ensuite, ils veulent les réintroduire dans le milieu naturel d'origine pour, je cite, « inverser les effets néfastes des dommages climatiques et régénérer des paysages vitaux ». Leur argument, c'est de dire « c'est une mission d'ordre écologique et on est un laboratoire de R&D de la conservation des espèces et de la protection de la biodiversité ». Ils soulignent qu'il y a un quart, ils actent qu'il y a un quart des espèces animales qui auront disparu d'ici 2 ou 3 ans.
Oui, ils ont une volonté de réensauvagement aussi.
Exactement. Ils financent aussi des programmes de réensauvagement. Ils financent des programmes d'observation des troupeaux d'éléphants. Enfin, les moyens mis sont effectivement soutiennent aussi des initiatives de protection des espèces, mais leur discours, c'est il est préférable d'avoir ces outils à temps, quitte à pas les utiliser, plutôt que de pas les avoir si on a besoin de les utiliser. Mais pour vous donner un exemple de ce que considèrent certains comme une absurdité, ou en tout cas loin d'être une évidence sur la portée écologique de ce projet. Sur le mammouth, l'idée c'est de placer un mammouth tous les kilomètres pour tasser l'herbe en Sibérie, pour tasser l'herbe du permafrost et tasser la neige, ce qui permettrait en fait au sol de rester un peu plus froid, le plus froid possible, pour réduire la libération des gaz à effet de serre.
Il n'en faudrait pas 3 des mammouths pour arriver à ça, j'imagine. Hein.
Alors, leur calcul, normalement, il faut surveiller, ils vont annoncer bientôt le nombre de mammouths par kilomètre carré. Mais voilà, c'est pour vous montrer un peu le. Donc, c'est ce qu'on appelle des proxys, le premier attendu d'ici 6 ans et la réintroduction promise pour d'ici 10 ans. Voilà. Mais c'était intéressant de discuter avec eux pour comprendre.
Oui, Yvon, et c'est en ça où j'en appelle à Tatiana Giraud, donc en tant que directrice de recherche au CNRS. Qu'est-ce que vous pensez de cette volonté de désextinction, justement?
Alors, à première vue, ça peut paraître une bonne idée, en disant, oui, il faut avoir les outils, c'est mieux de les avoir que de ne pas les avoir, ça peut faire sourire le permafrost, mais en fait, c'est assez dangereux, parce que, sur plusieurs niveaux, c'est pas juste le choix entre avoir ces outils ou pas les avoir au cas où, c'est j'investis $1 milliard là-dedans, plutôt que dans la conservation d'espèces qui n'ont pas encore disparu. C'est ça, le choix. Et ça participe aussi du déni de la gravité de l'effondrement actuel de la biodiversité. Si on se dit d'accord, un quart des espèces vont disparaître, mais je vais arriver à les refaire, ben on va dire, c'est pas très grave, on a le temps et on pourra toujours refaire. Non, on pourra pas refaire parce que, donc déjà, cette désextinction, on voit le prix que ça coûte, on va pas pouvoir le faire sur tous les organismes, on va le faire sur quelques organismes charismatiques classique, le mammouth d'ailleurs qu'on pourra chasser, etc. Mais on va pas le faire sur les champignons, tous les milliers de champignons qui ont disparu et qui sont essentiels à plein de fonctions écosystémiques dont notre survie dépend. D'ailleurs, on n'aura pas gardé l'ADN de ces champignons-là, de toutes ces bactéries essentielles, de tous les insectes, les pollinisateurs. On va pas pouvoir faire ça sur toutes les espèces qui nous sont essentielles. Et ça participe vraiment de ce déni, de se dire, c'est peut-être pas si grave, on a le temps et on pourra toujours corriger. Donc, c'est pas juste drôle et un outil au cas où on a besoin. C'est dangereux à plein de niveaux.
Et le fait justement qu'ils arrivent à séduire autant d'investisseurs, comment on peut l'expliquer? On a compris qu'on est sur une économie de la promesse, de toute façon, dans la Silicon Valley, mais tout de même.
C'est vraiment aussi l'envie d'être un peu un démiurge, le mythe du progrès technologique et qu'on va arriver à sauver la nature, être plus fort que la nature. Ça parle à l'être humain.
Alors justement, puisque vous parlez de nature et de vraie nature, je vous propose d'aller cueillir une pomme qui n'est pas que le fruit, mais aussi le nom de cette chanteuse. Je sais que les pommes vous sont chères dans vos recherches, Tatiana Giraud. Les pommes donc, qui nous chantent les séquoias. Et oui, nous sommes toujours dans la nature, dans le meilleur des mondes.
France Culture, le meilleur des mondes, François Saltiel.
Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, respirer en entier pour une fois et envoyer 2000 prières au vent pour nous sauver de toutes les peines d'avant. Avant la rivière a séché, habiter mon propre corps pour la première fois. J'ai bien gardé tous les secrets du vent, entremêlés, la salle épaisse et mon sang. Avant les arbres assassinés, j'ai respiré en entier pour une fois.
Qu'il est bon de respirer donc avec Pomme et ce titre Les Séquoias dans le meilleur des mondes, où nous parlons ce soir de manipulation génétique avec cette question: est-ce qu'elle peut nous sauver? C'est du moins la question que vous posez, Blaise Mao, dans votre dernier numéro, d'Ouzbek Erika. Dans ce numéro d'ailleurs, on retrouve aussi une sorte de top, de super pouvoir qui pourrait donner lieu prochainement à une sorte de super héros presque ordinaire des mutations génétiques qui ont été déjà identifiées et qui pourraient nous permettre de décupler certaines de nos capacités au point donc de le devenir. J'ai un super humain. Vous en avez recensé quelques-unes, je crois, pour nous.
Oui, on volera peut-être pas comme Superman, mais on aura peut-être bientôt des super zoos, comme cet Américain sorti miraculeusement indemne d'un accident de voiture en 94 et dont les radios avaient révélé une densité osseuse 8 fois supérieure à la moyenne. En fait, il a une mutation du gène LRP5 qui joue un rôle dans la régulation de la masse osseuse. Et peut-être qu'avoir des hanches super solides, ça ne fait pas rêver tout le monde, mais en fait, les personnes qui souffrent d'ostéoporose pourraient peut-être à terme prendre des médicaments capables de reproduire cette mutation. Donc ça, c'est intéressant. Premier super pouvoir, c'est celui des super os.
Voilà, alors les super os ne nous permettent pas de voler comme Superman, mais peut-être qu'on pourra bientôt ne pas ressentir la douleur, ce qui serait un autre pouvoir.
Oui, comme Superman qui ne ressent pas la douleur, décidément, beaucoup de Superman dans cette chronique. Les gènes SCN9A et SCN11A sont ceux qui sont responsables de la fabrication des transporteurs moléculaires qui transforment la douleur en signal électrique et qui transmettent au cerveau le long de la fibre nerveuse. Et en fait, quand les mutations bloquent ce processus, on perd sa sensibilité nerveuse, exactement comme notre cher Superman. Alors évidemment, c'est dangereux quand on perd le sens de la douleur.
Parce que la douleur est un signal quand même, la douleur est une alerte.
C'est une alerte.
La douleur est notre amie finalement.
On peut avoir de gros problèmes si on perd ce sens en quelque sorte. Mais la perspective de mutation antidouleur qu'on pourrait commander sur mesure, pourquoi pas grâce à notre fameux ciseau moléculaire, est présente. Mais si vous n'êtes pas très branché antidouleur et Superman, vous pouvez regarder du côté des super-héros Marvel et de Hulk. Hulk qui a le grand mérite de résister aux radiations cosmiques. Peut-être qu'un jour, on est encore loin du compte, mais peut-être qu'un jour on pourrait y arriver. Vous savez, notre Terre, elle est protégée des rayonnements nocifs du Soleil grâce à son champ magnétique, qui est en fait une barrière qui ne fait plus effet dans l'espace. Et donc pour contourner cet obstacle, il y a des recherches qui se concentrent sur le gène MC1R qui détermine la couleur de la peau et de la résistance au Soleil. Et quand on stimule la production de pigments dans les cellules qui produisent la mélanine, ça peut augmenter cette résistance. Les rayons émis dans l'espace, c'est ça le problème, ont une énergie beaucoup plus élevée que les UV qui sont présents sur Terre. Donc les combinaisons spatiales, on risque d'en avoir encore besoin pendant un petit moment.
Oui, il y a toujours un problème, de toute façon, à la fin. Bon, donc on va passer de l'espace à la Terre, voire même de la Terre à la mer, puisqu'on va plonger maintenant sous l'eau.
On va plonger avec les aquaman du peuple Bajao, au large des côtes des Philippines, de la Malaisie et de l'Indonésie, qui depuis 1000 ans pêchent jusqu'à 70 mètres de profondeur. En 2018, il y a une étude qui a identifié une mutation du gène PDE10A, responsable de la taille de la rate, l'organe qui permet de filtrer et de purifier le sang, qui renouvelle les globules rouges usés. Et en fait, une lente sélection naturelle a permis à ces Bajao de s'adapter à leur environnement. Donc on essaie de voir si cette mutation ne serait pas adaptable à d'autres populations, peut-être celles notamment qui souffrent de maladies respiratoires, l'asthme et autres, qui représentent 12% des décès aujourd'hui en France.
Et pour finir, dernier super pouvoir que la génétique laisse espérer, le ralentissement du vieillissement, voilà, quête éternelle.
Le grand rêve de la Silicon Valley, entre autres. Là, c'est intéressant, c'est de voir que la biologie de synthèse a permis en fait d'identifier que le gène CETP ralentit le déclin cognitif lié à l'âge. Et puis il y a un autre variant présent sur la protéine SIRT6, je donne tous les noms, comme ça vous pourrez creuser après cette chronique, est plus présent chez les centenaires. Voilà, donc on commence à identifier en fait des gènes qui expliqueraient la longévité. On a commencé à mener des expérimentations pour prolonger la durée de vie de certains vers de 45% en bloquant certains enzymes, de levures de 82%. Elles ont une vie plus longue, largement plus longue en manipulant leur circuit génétique. Donc on verra si à terme ces résultats se confirment sur l'humain et si on pourra, comme Wolverine, autre super-héros emblématique, mettre un siècle à passer de l'apparence d'un ado de 13 ans à celle d'un adulte de 30 ans.
Voilà. Merci pour ces promesses aussi, puisqu'encore une fois, nous sommes dans une économie de la promesse autour de cette question de la manipulation génétique. On en parle toujours en compagnie de Philippe Hinman, qui est philosophe des sciences, et de Tania Giraud, directrice de recherche au CNRS et membre de l'Académie des sciences. J'imagine que ça vous fait réagir, ça, Philippe Hinman, lorsque justement Blaise parle de la possibilité de repousser les frontières même du vieillissement et donc de la mort. Là, on en revient aussi à une idéologie qui accompagne toujours la Silicon Valley. Mais autant Blaise était dans des perspectives, et finalement, on a quand même des éléments un peu plus tangibles qui pourraient permettre de repousser comme ça les frontières.
Alors, repousser, je sais pas, mais alors de fait, je crois que c'est effectivement là, on a recensé une centaine, peut-être même plus, il y a un atlas de ça, de gènes impliqués dans la longévité. On appelle ça par abus gènes de longévité. Et le premier, et c'est ce qui est intéressant, c'est le premier, c'était chez le nématode, donc c'est un ver de terre, un organisme modèle parmi les organismes modèles les plus standards, qui a la propriété d'avoir une phase de latence quand il est stressé, il entre en latence et qui bouge plus. Et en fait, Cynthia Kenyon, c'est une biologiste dont le labo a, en neutralisant l'un des gènes impliqués dedans, qui s'appelle DAV2, je crois, mais peu importe, effectivement, le nématode vit 30% de temps en plus, ce qui est énorme, évidemment. Et alors la question qui s'est posée, c'était est-ce que ça, il y a d'autres gènes comme ça ? Et en cherchant, on en a trouvé beaucoup, jamais avec une extension de longévité aussi spectaculaire. Mais évidemment, c'est en labo chez des organismes modèles, donc on ne sait pas très bien ce que ça peut donner chez les humains. Ce qu'on sait, c'est premièrement, beaucoup de ces gènes sont impliqués dans la nutrition. Or, la seule technique dont on sait que chez les rats ou les chiens ou pas mal de choses, ça fait vivre plus longtemps, c'est la restriction calorique. C'est-à-dire, on mange pas assez. Ce qui revient à une chose assez simple. En fait, on peut vivre plus longtemps, mais on s'emmerde. En fait, parce qu'on mange vraiment pas beaucoup. Donc bon, c'est la seule technique avérée.
Vous mangez mieux, peut-être.
Non, c'est vraiment restriction là.
D'accord.
C'est manger mieux. C'est oui, on vit bien. Et ça. Alors, Cynthia Kenyon, aujourd'hui, elle est vice-présidente de Calico. C'est une des sous-sociétés de Google spécialisée dans l'extension de la vie et la suppression du vieillissement. Et donc, on voit bien le lien entre ces recherches, qui sont des recherches de biologie moléculaire fondamentale, et puis ce qu'on appelle parfois la médecine anti-âge, et donc un complexe techno-industriel, avec encore une fois, vu la promesse que ça implique, des niveaux de financement et de assez élevés. Mais il y a une chose intéressante quand même, c'est presque trivial, mais c'est aussi de se dire, mais oui, mais les gens vieillissent et meurent précocement parce qu'il y a quand même des problèmes de stress, de mauvaise nourriture, etc. Et ce serait sans doute beaucoup plus simple et on augmenterait l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé beaucoup mieux dans des environnements de vie qui seraient différents. Et on peut faire la même réflexion avec les moustiques. On peut aussi essayer de mettre plus d'argent dans la lutte contre le paludisme que par exemple dans la calvitie masculine ou ce genre de choses. Mais comme c'est des pays pauvres, ça intéresse personne le paludisme. Donc on se dit, on va traiter ça en changeant les gènes, on va traiter le vieillissement en changeant les gènes. Et donc il y a à la fois une idéologie de, on répare une voiture en changeant une partie déficiente et elle marche mieux, et une structure effectivement technologico-financière qui s'est mise en place.
Alors dans cette justement structure techno-financière, on peut citer aussi Mini Cycle.
Increase one's longevity, increase one's health span, as it were. You know, making sure you're not just living to 120 old and decrepit, but no, you're actually still functional.
L'objectif de la thérapie génique est d'augmenter la longévité d'une personne, sa durée de vie en bonne santé, pour faire en sorte que vous ne viviez pas jusqu'à 120 ans en étant vieux et décrépit, mais en étant en pleine forme. Et dans ce cas, si vous avez un problème médical, vous serez capable de vous en remettre. Je crois que cela fait partie de la trajectoire de la médecine. À mon avis, si nous devions comparer l'avancée de la thérapie génique à l'histoire de l'électricité, nous en serions au moment où Ben Franklin réalisait son expérience du cerf-volant. Nous n'en sommes pas à l'iPhone pour l'instant. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Mais au final, nous sommes des organismes composés de milliards de codes, tous écrits en A, T, G et C. Et être capable d'écrire ce code, être capable de changer ce code, nous permettra de ne plus être de simples figurants, mais de véritables acteurs. Nous pourrons pleinement prendre notre vie en main et, surtout, celle de notre communauté, de notre espèce, de notre famille, parce que nous serons capables de nous transformer pour le meilleur.
Change ourselves for the better.
Voilà, pour le meilleur, ça c'est la promesse, pour le pire, ça aussi c'est la question qu'on peut poser. On parle beaucoup de code finalement, dans le code il y a la loi du code, et la loi est aussi un paramètre important lorsque on analyse toutes ces manipulations génétiques, puisque c'est la loi qui nous permet aussi d'avoir des garde-fous. On sait très bien qu'on a des exemples dans d'autres pays où la loi était plus lâche, où on l'a d'ailleurs outrepassée, pour tenter justement de manipuler génétiquement, alors soit l'humain, soit le vivant dans son ensemble. Alors, en termes d'exemples récents de lois, on faut revenir peut-être au NTGS, puisque là, on a l'Union européenne qui, il y a deux mois, en février, a assoupli finalement l'usage de ces manipulations génétiques.
Ouais, ils n'ont pas assoupli, heureusement, autant que ce qui a été demandé. L'idée, c'était que donc les OGM sont interdits en Europe, et l'idée, c'était d'autoriser les NBT, donc ces nouveaux organismes génétiquement modifiés, par CRISPR, en disant que il y a moins de risques qu'avec les OGM, puisqu'on sait exactement ce qu'on fait, il n'y a pas de risque qu'il y ait d'autres mutations hors cible. Donc, ce qui a été autorisé, c'est de jusqu'à 20 modifications maximum, qui a pas vraiment de base scientifique hein, dans ces mais on pourra effectivement les cultiver. Alors, c'est pas encore allé jusqu'au bout du processus. Et heureusement aussi, on ne pourra pas les breveter, qui était aussi une pierre d'achoppement très importante, parce que c'est vraiment un des problèmes et un des gros risques des OGM, c'est que ça permet de s'approprier le vivant, de breveter le vivant. C'est-à-dire qu'avec CRISPR, vous changez une paire de base dans le génome, un nucléotide, et vous le brevetez parce que vous l'avez modifié. Et
donc on le dépose, on le capte en fait, c'est une captation du vivant.
Exactement, et tout le génome, pas seulement ce que vous avez modifié. Et donc il y a un exemple assez édifiant là qui est en train de se passer, une firme américaine qui a développé un OGM avec CRISPR-Cas9, une tomate violette, et une autre entreprise qui a développé une tomate violette, mais par sélection conventionnelle. Eh bien, la firme qui a développé l'OGM attaque juridiquement celle qui l'a développé de façon conventionnelle en disant qu'ils lui ont volé leur NBT. Et en fait, personne n'est capable de dire qui a raison. Parce que CRISPR est tellement fin, on peut juste changer une paire de bases qui peut très bien exister dans la nature. Il n'y a aucun moyen de vérifier, même en séquençant les génomes complets, s'ils ont volé ou pas le gène breveté. Mais ça veut dire que, finalement, ils s'approprient non seulement ce qu'ils ont fait, qui est déjà grave, mais la couleur violette. Plus personne ne pourra jamais faire de tomates violettes, même sans OGM.
Ça me fait penser justement à la marque Pepsi qui, à un moment donné, voulait déposer la couleur bleue dans ses campagnes publicitaires. Donc là aussi, c'est une captation de quelque chose qui appartient à tout le monde, dans une forme d'universalité. Juste sur les NTG, parce que là aussi, tout le monde ne s'accorde pas. L'idée aussi derrière, parce qu'il y a souvent des arguments quand même écologiques dans ces différents usages, c'est aussi d'utiliser moins d'herbicides.
Exactement. Et donc on est encore sur l'économie de la promesse, c'est-à-dire on va dire les OGM vont permettre d'utiliser moins d'herbicides, moins de pesticides, de mieux nourrir la planète, etc. Alors là, on a du recul. Il y a plein de pays qui ont planté des semences OGM pendant longtemps. Et qu'est-ce qu'on constate? On a des chiffres scientifiques. Eh bien, il y a eu plus de pesticides répandus, plus d'herbicides. Pourquoi? Parce que 88% des OGM qui sont plantés aux États-Unis, par exemple, c'est des OGM résistants aux herbicides. Donc l'idée, c'est que vous plantez un maïs résistant à l'herbicide. Comme ça, vous épandez un maximum d'herbicides dans le champ et il n'y a que votre maïs qui pousse. Et donc la conséquence, c'est évidemment qu'on répand énormément plus d'herbicides avant. Et en plus, cette résistance aux herbicides, elle s'est transmise aux autres espèces. Et de plus en plus, il y a de plus en plus d'espèces résistantes à ces herbicides. Donc c'est un peu comme les antibiotiques. On dit qu'il ne faut pas les utiliser tout le temps. Sinon, vous ne pourrez pas les utiliser quand vous aurez besoin parce que les bactéries sont résistantes. Là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les herbes sauvages et les herbes dont on voulait se débarrasser sont en train de devenir résistantes. Donc non seulement on répand, on empoisonne les pollinisateurs, les sols, etc. Mais en plus, ça ne va même plus être efficace.
C'est là où finalement il y a un parallèle dans cette grande idée, Philippe Hudemann, c'est qu'on est toujours dans cette sorte d'effet domino, c'est-à-dire qu'on va avoir, on va essayer de reprendre la main sur le vivant en employant une technologie. Cette technologie va susciter finalement un nouveau problème, et ce nouveau problème, d'autres acteurs vont arriver en disant j'ai toujours la solution, qui sera encore une technosolution, et là on arrive à une sorte d'impasse, une course sans fin.
Oui, absolument. Ça fait penser à une espèce de fuite en avant ou de course aux armements, c'est-à-dire que chacune de ces techniques, par exemple, vous allez couper un gène, éditer, puis alors vous allez vous rendre compte que soit plus tard dans la vie de l'organisme, il y aura des effets, parce que chaque gène, il agit pas sur on parlait de code, etc. Il y avait une vieille idée qui était que le génome, c'est une liste d'instructions pour faire des choses. C'est pas vrai. Un gène, on sait très bien que c'est pas juste une instruction pour une chose. Ça peut agir sur des centaines d'autres gènes, donc de caractère. Et donc en moyenne, on va savoir que par exemple tel gène, il est impliqué dans la croissance, et si on le découpe et on l'édite, on va lutter contre la certaines malformations, sauf que ça peut avoir tout un tas d'autres effets. Et par ailleurs, en changeant les gènes dans la population, on va agir aussi sur la variation, donc il peut y avoir d'autres variants qui quelques générations plus tard vont arriver. Et donc on se prépare tout un tas d'effets auxquels personne n'aura pensé, mais comme on est très intelligent, on va trouver à chaque fois la nouvelle technique pour permettre ça. Et donc l'idée, c'est que Tout ça, comme disait un peu Tatiana tout à l'heure, permet de préserver le statu quo à force de petites réparations, de patchs sur des patchs sur des patchs sur des patchs. Alors que le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, il y a quand même un énorme problème de modèle de société derrière. C'est quelque chose qui est pas... c'est quelque chose qui est quasiment unanime chez la plupart des scientifiques qui s'occupent de ça. C'est pas du tout une sorte de gauchiste chevelu, quoi.
Ouais, on a l'impression, même si je me risque un mauvais jeu de mots, mais que la compréhension de la biodiversité est laissée comme un terrain en jachère. C'est-à-dire que c'est comme si personne s'intéressait. Enfin, des gens s'y intéressent, mais c'est comme si il y avait une méconnaissance des enjeux et de la complexité, justement, de cette biodiversité qui nous entoure.
C'est vraiment le problème. Il y a une méconnaissance à la fois de ce que c'est et comment ça fonctionne, et surtout, quel impact ça a sur nous. On commence à se rendre compte dans le grand public de l'impact qu'a le dérèglement climatique, mais même par exemple les inondations dont on se rend compte de plus en plus, c'est pas seulement le dérèglement climatique, c'est aussi toute la biodiversité qui a disparu, comme les zones humides qui tamponnaient quand il y avait trop d'eau, ça retenait de l'eau et ça relarguait en période de sécheresse. On commence à se rendre compte des pollinisateurs qui disparaissent. Il y a encore un manque d'éducation du grand public sur quel impact va avoir cet effondrement de la biodiversité sur les sociétés humaines et comment la conserver. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne comprend pas comment elle fonctionne, on trouve des mauvaises solutions pour la conserver. C'est-à-dire que, comme on disait au début, c'est essentiel pour l'évolution et l'adaptation de conserver la diversité génétique au sein des espèces. Et donc, c'est complètement aberrant dans ce contexte-là de dire on va déséteindre 3 ou 4 individus de mammouth ou on va faire des OGM à partir de 3 ou 4 individus. C'est exactement le contraire qu'il faut faire. Et on peut pas s'en rendre compte si on comprend pas comment fonctionne l'évolution et l'écologie et toutes les interactions entre les espèces. Comme on disait tout à l'heure, on sait pas... quand on change une paire de bases, quel effet ça a à l'autre bout du génome. Mais c'est pareil, on ne sait pas quand on change une espèce, quel effet ça a sur une autre espèce.
Voilà, on préfère être dans une économie de la promesse plutôt qu'accepter notre propre ignorance par rapport à ce monde vivant qui nous entoure, Blaise Mao.
Un exemple qui illustre, je trouve, bien ce que vient de développer Tatiana et Philippe sur l'espèce de manière de maintenir le statu quo, c'est un projet qui est en développement aux États-Unis. Donc la Food and Drug Administration, la FDA, qui est l'agence qui veille à la sécurité alimentaire des Américains, a validé plusieurs projets qui visent à commercialiser de la viande provenant d'animaux génétiquement modifiés. En 2022, elle a approuvé celui d'une entreprise de biotech qui s'appelle Recombinetics, qui veut vendre de la viande issue de vaches, donc on est sur des bovins, viande de vache, dont on connaît l'impact sur le climat, modifiés pour avoir un pelage plus court, plus lisse, leur permettant de mieux supporter la chaleur, donc de prendre plus facilement du poids et d'être suffisamment riche en viande, ce qui est évidemment une manière d'accroître les rendements et les revenus des éleveurs. Donc en fait, notre réponse sur un monde plus chaud dont on sait que il faut réduire notre consommation de viande, c'est des vaches encore plus résistantes qui ressembleront aux vaches du monde d'avant pour que rien ne change.
Et dans ce cadre-là, il y a des choses, des risques éthiques aussi très forts. Il y a même des auteurs qui ont suggéré de faire des poulets génétiquement modifiés qui n'auraient pas d'yeux pour être moins agressifs, ou même des poulets qui auraient presque pas de cerveau pour que moralement, ils ne soient pas vraiment des animaux et qu'on puisse les traiter n'importe comment.
Voilà, ça fait rêver, effectivement. Espérons que Juliette Devaux, qui vient de rentrer dans ce studio, bonsoir Juliette, va nous apporter quelques bonnes nouvelles concernant la nouvelle génération, justement, d'entrepreneurs de la Silicon Valley, une génération qui serait peut-être un peu plus préoccupée par les questions éthiques et écologiques.
Oui, c'est ce qu'on pourrait penser lorsque l'on observe le virage technocritique opéré par quelques jeunes représentants de la Silicon Valley depuis quelques années, et dont la figure de proue pourrait être Tristan Harris, cet ancien ingénieur de Google, qui, rappelez-vous, a quitté la firme avec fracas en 2015 et plaide depuis pour un numérique plus vertueux au sein de son organisme à but non lucratif intitulé sobrement le Human Center for Technology. Et dans le sillon de sa trajectoire, on observe depuis quelques années la création d'autres organismes de ce type dans la Silicon Valley qui attirent des trentenaires repentis de la tech souhaitant mettre leurs compétences au service d'organisations poursuivant des objectifs plus vertueux. C'est le cas par exemple de l'organisme la Earth Species Project, fondé par un ancien serial entrepreneur qui se donne pour mission de traduire le langage des animaux grâce à l'intelligence artificielle pour nous aider à nous reconnecter au vivant.
Et pourtant, cette promesse de reconnexion à la nature par la technologie ne date pas d'hier.
Eh bien oui, cette promesse de reconnexion avec la nature traverse l'histoire de l'épicentre technologique du monde. Pour s'en convaincre, il suffit de se pencher sur la trajectoire de l'un des pionniers de la Silicon Valley, Stewart Brand, à l'origine de la publication du World Earth Catalog dans les années 70, magazine qui préfigurait les fonctionnalités d'Internet. Ce biologiste de formation relation est notamment connue pour avoir publié dans son magazine la première photo de la Terre prise par satellite avec pour objectif de créer un sentiment d'appartenance commun et aider l'humanité à prendre conscience de la nécessité de préserver notre planète. Mais la suite de la trajectoire de ce technophile hippie nous éclaire aussi sur la conception de l'écologie qui s'est progressivement diffusée dans la Silicon Valley. Depuis les années 2000, Stewart Brand est devenu l'un des plus ardents défenseurs d'une écologie dite pragmatique et se fait le promoteur dans ses ouvrages des technologies les plus polémiques pour lutter contre le réchauffement climatique, géo-ingénierie, recours massif aux OGM, urbanisation de masse et même projets de désextinction.
Et oui, on en parlait tout à l'heure. Alors, est-ce que cette approche technophile s'explique par l'appartenance de Stewart Brand à l'ancienne génération?
C'est en effet ce qu'on pourrait penser. De nombreux organismes de la nouvelle génération dans la Silicon Valley se détachent de cette technophilie radicale pour proposer des technologies moins invasives et plus respectueuses du vivant depuis quelques années. C'est le cas donc de la Earth Species Project évoqué précédemment, qui souhaite simplement traduire le langage des animaux en analysant leurs données vocales grâce au machine learning. Mais même avec ce type d'approche, l'héritage de la Silicon Valley transparaît. Penser que la traduction littérale en langage humain des cris des animaux nous permettra à terme de communiquer avec eux relève d'une approche simpliste du vivant. Les nombreux bioacousticiens qui travaillent sur le sujet depuis des années savent que les interactions dans le monde animal passent par bien d'autres modalités que le son et qu'il est très difficile de comprendre ces communications en les retirant de leur contexte d'émission. La preuve que la vision techniciste menant à une simplification du monde vivant est moins une question de génération que de territoire. La Silicon Valley ne sera ainsi probablement pas le lieu où émergeront les vraies solutions pour répondre aux défis majeurs qui nous attendent.
Merci Juliette pour ce bilan finalement nuancé autour des promesses de la nouvelle génération. Tatiana Giraud, peut-être pour terminer avec une question qui se fait un peu l'avocat du diable, on a été assez critique finalement autour de ces nouvelles technologies. Pour autant, est-ce qu'on pourra uniquement utiliser des solutions low-tech pour essayer de répondre à ces défis qui nous attendent?
Alors, ça dépend quel défi, mais les défis environnementaux, clairement, ça sera les meilleures solutions. Hein, quand vous laissez le chauffage dans votre appartement et que vos plantes dessèchent, ont trop chaud, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un extracteur de chaleur ou vous coupez le chauffage, quoi? L'effondrement de la biodiversité, la seule solution, c'est de supprimer les causes de l'évolution de l'effondrement de la biodiversité, hein, et on le sait, c'est le dérèglement climatique, la destruction des habitats, les pesticides, et c'est beaucoup plus simple de réduire et de supprimer les pesticides et beaucoup moins cher que de développer toutes ces technologies. Et contrairement à ce qu'on entend, c'est tout à fait faisable et moins cher que de développer toutes ces technologies.
Ben voilà une dernière solution de bon sens terrien, on pourrait même ainsi dire, pour retomber sur nos pattes. Merci à tous les trois de m'avoir accompagné dans cette émission. Je renvoie évidemment à ce dernier numéro d'Ouzbek Erika, La génétique peut-elle nous sauver, Blaise Mao. C'est en kiosque depuis hier dans toutes les librairies.
Pas kiosque, librairie et en ligne.
Pas kiosque, justement, librairie et en ligne, pour retrouver donc ce numéro d'Ouzbek Erika. Philippe Hunemann, merci beaucoup d'avoir été avec nous au cours de cette émission. Merci à Tatiana Giraud également, et je rappelle aussi le titre de votre dernier livre, L'attention au vivant, et c'est publié aux éditions
de l'Observatoire.
Merci à vous de nous avoir accompagnés, merci à la réalisation de cette émission, Perret Legras, à la technique son, Florent Bujon, à la vidéo, Vincent René, à la préparation comme toujours de cette émission, Juliette Devaux, accompagnée par Lodine Storelli. Le meilleur des mondes, c'est donc terminé, on se retrouve évidemment la semaine prochaine, si nous sommes tous toujours vivant, et oui, nous le serons.